Souvent, je me dis que j'aurais aimé côtoyer Jésus pendant son ministère sur terre. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette même pensée. Dans les moments où la foi est un peu plus tiède, un peu plus difficile, ou peut-être on passe par des moments de doute, ou en tout cas voilà, de tiédeur, eh bien, je me dis que si Jésus était là devant moi et que je pouvais l'entendre directement enseigner, il n'y aurait plus de problème. Je serais brûlant de zèle 24 heures sur 24 pour le restant de ma vie. Mais est-ce si sûr? On a vu il y a quelques semaines, en étudiant la fin du chapitre 6 de l'évangile de Jean, que bon nombre de personnes qui avaient assisté au ministère de Jésus se sont ensuite détournées de lui, alors qu'elles avaient vu Jésus agir et enseigner sous leurs yeux. Elles se sont détournées de lui parce que son enseignement parfois était trop dur à entendre. Et ce matin, on va assister à nouveau à différentes réactions à Jésus, à sa personne, son enseignement, et ses miracles, au chapitre 7 de l'évangile de Jean, les versets 1 à 24. Donc l'évangile de Jean, chapitre 7, versets 1 à 24. Dans les Bibles bleues, c'est à la page 1043. Et ces diverses réactions auxquelles nous assistons dans ce texte, nous allons voir qu'elles peuvent ressembler aux réactions de nos contemporains et aussi à nos réactions parfois à Jésus. Donc je vous invite à lire dans l'évangile de Jean, chapitre 7, versets 1 à 24. Après cela, Jésus parcourait la Galilée. En effet, il ne voulait pas parcourir la Judée, parce que les Juifs cherchaient à le tuer. Or, la fête juive des Tentes était proche. Ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va-t'en en Judée, pour que tes disciples aussi voient les œuvres que tu fais. » Personne n'agit en secret s'il cherche à se mettre en évidence. Si tu fais ces choses, manifeste-toi au monde. En effet, même ses frères ne mettaient pas leur foi en lui. Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu. Votre temps à vous est toujours là. Le monde ne peut pas vous détester. Moi, il me déteste parce que je lui rends le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à la fête. Moi, je ne monte pas à cette fête parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Après avoir dit cela, lui, il demeura en Galilée. Mais quand ses frères furent montés à la fête, alors il y monta lui aussi, non pas manifestement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, « Où est-il celui-là » Il y avait dans la foule, dans les foules, beaucoup de murmures à son sujet. Les uns disaient, « C'est un homme de bien. » D'autres disaient, « Au contraire, il égare la foule. » Personne toutefois ne parlait ouvertement de lui par crainte des Juifs. On était déjà au milieu de la fête quand Jésus monta au temple. Là, il enseignait. Les Juifs étonnés se demandaient, comment connaît-il les écrits, lui qui n'a pas étudié? Jésus leur répondit, mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il saura si cet enseignement vient de Dieu ou si c'est moi qui parle de ma propre initiative. Celui qui parle de sa propre initiative cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est vrai et il n'y a pas d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Pourtant, aucun de vous ne met la loi en pratique. Pourquoi cherchez-vous à me tuer? La foule répondit, « Tu as un démon, qui cherche à te tuer ?» Jésus leur répondit, « J'ai fait une seule œuvre, et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, puisqu'elle vient des pères, et vous circoncisez un homme pendant le sabbat. Si un homme reçoit la circoncision pendant le sabbat pour que la loi de Moïse ne soit pas annulée, pourquoi vous irritez-vous contre moi qui ai rendu la santé à un homme tout entier pendant le sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, que votre jugement soit juste. » Nous arrêterons là la lecture. Ce texte nous montre donc plusieurs réactions diverses à Jésus. Et je vous propose de les examiner, ces différentes réactions, en suivant l'ordre du texte. On voit qu'il y a plusieurs profils à la suite. Il y a d'abord les proches, ensuite les curieux, ensuite les adversaires, et puis en conclusion, les disciples authentiques. Les proches d'abord. En Galilée, on l'a vu il y a quelques semaines, beaucoup ont abandonné Jésus. Mais en Judée, plus au sud, la région où se trouvait Jérusalem, la situation est encore pire. Chapitre 7, verset 1, « Il ne voulait pas parcourir la Judée parce que les Juifs cherchaient à le tuer », écrit Jean. Quand Jean parle des Juifs dans son évangile, on voit bien dans le contexte qu'il désigne les autorités juives. La preuve, c'est qu'il est parfois dit que les foules craignaient les Juifs,
alors que les foules essentiellement sont constituées de personnes juives. Jésus donc est wanted, si on veut, en Judée. Les autorités religieuses considèrent que son enseignement est dangereux parce qu'il éloigne les foules de leur influence et de leurs pratiques. Cela dit, l'opposition à Jésus n'est pas seulement le fait des autorités. Le début de ce chapitre nous montre de manière tout à fait frappante que même des proches de Jésus, en l'occurrence ses frères, sont sceptiques à son égard. Alors le verset 2 nous dit que la fête des tentes ou des huttes, une grande fête religieuse juive, était proche. Et à cette occasion, un grand nombre de personnes en Israël partaient à la capitale, partaient à Jérusalem. Dans ce contexte, on assiste à une discussion étonnante entre Jésus et ses frères, les enfants de Marie et Joseph. Donc, ils essayent de le convaincre d'aller à Jérusalem pour se mettre en évidence et faire des miracles. Verset 3, « Pars d'ici et va-t'en en Judée pour que tes disciples aussi voient les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à se mettre en évidence. Si tu fais ces choses, manifeste-toi au monde. » Le verset 5 nous indique qu'à ce stade, les frères de Jésus ne croyaient pas qu'il était réellement celui qu'il affirmait être le Messie, le Fils de Dieu. Et dans ce qu'ils lui disent ici, il semble y avoir une attitude un petit peu ironique. En gros, ils mettent Jésus à l'épreuve. Si tu es vraiment quelqu'un, fais comme font les gens un peu en vue, les gens célèbres, monte à la capitale. En France, c'est un peu ça aussi qu'on conseille aux gens qui veulent se faire un nom, entre guillemets. Monte à la capitale et fais-toi un nom. Il est frappant de voir que les frères de Jésus, qu'il avait côtoyés pendant des décennies, n'avaient pas compris qui il était vraiment, ni placé leur foi en lui. Ça fait réfléchir. Et je me demande si ce matin, il n'y a pas peut-être des personnes parmi nous qui sont un peu comme les frères de Jésus. Ce que je veux dire par là, c'est que dans un sens, vous êtes proche de lui. Vous avez reçu une éducation chrétienne, vous connaissez pas mal de choses sur son enseignement, mais peut-être que vous restez encore à l'écart, que votre rapport à Jésus reste superficiel. Peut-être que comme les frères de Jésus, vous attendez une action de sa part qui corresponde à vos attentes. Je m'intéresserai à Jésus quand j'aurai vraiment vu un bénéfice dans mon quotidien. Ou bien, je m'intéresserai à Jésus lorsqu'il aura rétabli la paix dans le monde. Il le fera un jour, mais c'est avant ce jour qu'il faut se tourner vers lui. Je m'intéresserai à Jésus plus tard, peut-être lorsque je serai plus âgé, ou lorsque je rangerai ma vie, lorsque je deviendrai plus sérieux. Et puis, parfois, ce sont des raisons plus complexes qui peuvent nous tenir à l'écart, parfois des choses difficiles aussi vécues dans l'Église, et cela est malheureux. Mais quoi qu'il en soit, on peut avoir côtoyé Jésus toute sa vie sans l'avoir vraiment connu, comme l'exemple des frères de Jésus ici nous le montre. Et c'est dramatique. Un film sorti il y a quelques années, Vers l'inconnu ou Into the Wild, nous présente un jeune homme qui a tout lâché, études prestigieuses, famille, amis, pour aller, certains ont sans doute vu ce film, pour aller marcher en Alaska seul, sans provisions, trouver en quelque sorte le sens de sa vie et en cherchant chaque jour de quoi survivre et manger. Et l'histoire se termine mal, tragiquement. Le jeune homme meurt de faim après avoir passé des semaines dans un autobus abandonné. Et ce qui est d'autant plus tragique, c'est que à quelques kilomètres au sud de cet endroit où il se réfugiait, il se trouve qu'il y avait un refuge rempli de nourriture et de médicaments. Et lorsqu'il était encore dans un état physique correct, il aurait pu y aller, on estime, en à peu près 3 heures de marche. Mais il ne savait pas que sa délivrance sur le plan physique était là, si proche. Et de façon un petit peu analogue, on peut passer sa vie à venir à l'église, même régulièrement, à côtoyer Jésus, et même à y prendre un certain plaisir, mais sans voir qu'il est encore un inconnu pour nous, parce qu'on n'a pas placé sa foi en lui, parce qu'on ne lui a pas donné sa vie. Et en général, si nous restons à distance de Jésus, c'est parce que nous voulons maîtriser nous-mêmes notre vie. Et même les chrétiens affermis ont tendance à faire cela parfois. Et si Jésus trouve une place, souvent c'est sous les conditions que nous imposons nous-mêmes. Et c'est ce que font ici les frères de Jésus. Ils l'abordent en cherchant à le soumettre à leur schéma. Verset 4, « Personne n'agit en secret, voyons. Manifeste-toi au monde. » Mais Jésus ne se soumettra pas à nous. c'est à nous de nous soumettre à lui, pour notre plus grand bien. Verset 6, « Mon temps n'est pas encore venu, votre temps à vous est toujours là. » Jésus a souvent parlé de son heure, notamment dans l'évangile de Jean, cette expression est relevée plusieurs fois, et cette heure est en référence à son sacrifice sur la croix. Ici, le mot utilisé est un peu différent, traduit ici par « mon temps ». Et il semble plutôt être question du temps auquel Jésus ira à Jérusalem. Et c'est en définitive pour y mourir sur la croix et puis y ressusciter. Et Jésus précise ici que le temps pour cela n'est pas encore venu. Alors ses frères, eux, peuvent y aller quand ils veulent. Personne ne leur veut du mal à eux. Rien dans leur vie ou leur comportement ne menace les valeurs du monde. Jésus, lui, n'ira pas à Jérusalem pour épater les foules, comme certains voulaient qu'il fasse, un peu comme un magicien. Il ira lorsque le Père l'y enverra, pour y remplir sa mission. Une mission qui culmine à la croix, et puis au dimanche de Pâques. Verset 7, « Le monde ne peut pas vous détester, moi il me déteste, parce que je lui rends le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. » Jésus ne se conforme pas à notre monde, et par conséquent, le monde le rejette. Et le monde rejette ses disciples authentiques. On y reviendra tout à l'heure. Pour les frères de Jésus, l'histoire s'est bien terminée. La suite du Nouveau Testament nous montre qu'après la résurrection de Jésus, plusieurs de ses frères, et peut-être même tous, ont cru en lui. Deux d'entre eux, en tout cas, Jacques et Jude, non seulement ont cru, mais ont été des responsables de l'Église naissante. L'un et l'autre, d'ailleurs, ont écrit une lettre du Nouveau Testament. Alors si vous côtoyez Jésus depuis votre enfance ou depuis un certain temps, sans lui avoir vraiment confié votre vie, il n'est pas trop tard. Et c'est l'exemple positif, cette fois, des frères de Jésus qui nous le rappellent. Mais passons à une deuxième réaction que nous présente le texte, les curieux. Au verset 12, on voit que la foule des pèlerins présent pour la fête des tentes, a des réactions diverses à l'égard de Jésus. Alors, ici, on n'a sûrement pas une liste exhaustive des réactions, mais en gros, il y a deux positionnements. D'une part, ceux qui disent « c'est quelqu'un de bien », et qui se souviennent que la dernière fois que Jésus est venu à Jérusalem, il a guéri miraculeusement un homme qui était atteint d'une maladie grave depuis 38 ans. Plusieurs se disent donc que si Jésus a pu accomplir un tel acte de compassion, c'est sûrement quelqu'un de bien. Mais d'autres estiment que Jésus égare la foule. Pourquoi ? Parce qu'il semble remettre en question l'observance stricte et pointilleuse de certains aspects de la loi de Moïse, ou en tout cas de l'interprétation qu'on en faisait à cette époque. Et puis aussi, il égare la foule, selon certains, peut-être même surtout pour cela, en raison des affirmations sur sa personne, que nous avons vu il y a quelques semaines, l'affirmation qu'il est venu directement d'auprès de Dieu et que chaque être humain a un besoin vital de le connaître. Peut-être qu'il y a des curieux parmi nous ce matin, et nous sommes très heureux de votre présence si vous êtes dans cette démarche de découverte de la foi ou de ce que nous croyons. Et peut-être que vous hésitez un peu entre ces deux positionnements. D'un côté, vous avez une image positive de Jésus. Il y a généralement dans la société une image très, très limitée, mais positive, de Jésus. Mais de l'autre, vous êtes imprégné d'une pensée relativiste qui est dominante aujourd'hui, complètement dominante, qui dit que le divin est soit un peu partout, soit nulle part, on ne sait pas trop, mais en tout cas à chacun de donner un sens à sa vie. Alors quand Jésus se présente comme le chemin, la vérité et la vie, quand il affirme que la vie de chacun ultimement repose entre ses mains, et qu'il faut se positionné par rapport à lui et qu'il y a là un enjeu de vie et de mort spirituelle, là, c'est un peu dur, un peu plus dur à encaisser. Et c'est compréhensible. Qui peut imaginer qu'un simple homme dise des choses comme cela ? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Avant qu'Abraham fût, je suis. Comment est-ce qu'un simple homme pourrait dire des choses comme cela et être pris au sérieux ? En Corée du Nord, le dictateur Kim Jong-un, à la suite de son père et de son grand-père, a mis en place un culte de la personnalité à sa gloire. Il se fait appeler, entre autres, « génie des génies » ou encore « le soleil levant ». Et voici un extrait d'un chant de propagande, je ne vais pas le chanter, mais je vais vous le lire. je ne saurais pas le chanter d'ailleurs. Il tient le destin de son peuple dans son corps. Il est l'idéal dont nous rêvions, la personne qui fleurira des fleurs de tous. Alors, lorsqu'en France, on entend ça, on a un peu envie de rire ou de pleurer, parce que le décalage entre la réalité d'un dictateur et ses paroles, et de la souffrance de la population, le décalage est immense et tragique. C'est intéressant que lorsqu'on entend Jésus se présenter comme le chemin, la vérité et la vie, la lumière du monde, on n'a pas la même réaction, et même la plupart des non-chrétiens n'ont pas la même réaction. On n'a pas le sentiment qu'il soit un illuminé ou un mégalomane. Écoutez ce qu'écrit un théologien qui est bien connu ici, Henri Blocher. Je cite quelques phrases de son ouvrage « La doctrine du Christ ». Jésus donne l'image d'un modèle d'équilibre et d'humilité dont la paix intérieure rayonne pour nous du récit. Or, en même temps, Jésus émet sur son propre compte des prétentions exorbitantes aux questions « Es-tu plus grand que notre père Jacob ?» Jean 4, 12. « Es-tu plus grand que notre père Abraham ?» Jean 8, 53. Sa réponse implique un oui sans équivoque. Il dépasse Jean-Baptiste, décrit pourtant comme le plus grand parmi ceux qui sont nés de femmes. Il s'élève au-dessus du temple de Dieu lui-même, Matthieu 12, 6. Mégalomanie ? Pour tout autre, on serait porté à le dire. Et pourtant, dans le cas de Jésus, ses paroles demeurent parfaitement proportionnées. Pour l'observateur non engagé, l'énigme appelle l'enquête. Le fait est qu'on n'a pas de catégorie adéquate pour Jésus. Et j'aime bien cette dernière phrase d'Henri Blocher, « L'énigme appelle l'enquête ». Et si vous faites partie de ces curieux, j'espère, nous espérons, que vous continuerez à enquêter sur Jésus. Et ce serait un honneur pour nous, je parle là au nom de l'Église, avec nos modestes moyens, de vous expliquer qui il est, ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Et dans cette Église, plusieurs activités peuvent vous intéresser si vous êtes dans cette démarche de recherche spirituelle, sans avoir encore de positionnement net, et ne serait-ce que si vous êtes curieux de savoir ce que nous croyons. Alors vous pouvez aller voir sur notre site, www.sèvres72.org, ou bien n'hésitez pas à venir m'en parler tout à l'heure. Mais passons au profil suivant maintenant, les adversaires. On a déjà vu que l'élite religieuse était en grande partie opposée à Jésus. Un peu plus tôt, au chapitre 5, on voit que plusieurs parmi ces responsables religieux cherchaient déjà un moyen de le supprimer. Et lorsque Jésus part enfin pour la Judée, verset 10, il y va en secret. Mais sa présence a certainement été signalée et donc il est recherché. Verset 11, où est-il celui-là ? On sent un peu le mépris qui va avec cette question. Pourtant, un jour, Jésus se révèle au grand jour et il va même aller enseigner dans le temple. Si on veut se cacher, ce n'est vraiment pas là qu'on va. Comme quoi, Jésus avait bien choisi le moment où aller se mettre en évidence. Et il n'a pas peur de se montrer en public. Mais il le fait au moment voulu par le Père et non selon les attentes humaines, en son temps. Jésus donc prend la parole dans le temple et son enseignement reflète une profonde connaissance des Écritures, verset 15. Alors ça étonne ses auditeurs puisque Jésus n'avait pas reçu de formation rabbinique formelle. Et face à cette réaction, Jésus répond que son enseignement lui vient directement du Père, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et encore une fois, il ne va pas chercher à apaiser le débat. C'est frappant de voir que Jésus, c'est rare qu'il cherche à apaiser le débat, à nuancer ses propos. Au contraire, il leur pose cette question qui jette quand même un froid. Pourquoi cherchez-vous à me tuer ? Et là, il se met la foule à dos. Verset 20, la foule répondit, « Tu as un démon ? Qui cherche à te tuer ?» Autrement dit, ici, ça ne va pas à la tête. Tu es paranoïaque. Et pourtant, la suite du texte confirme que les autorités juives avaient bien commencé à comploter contre Jésus. Alors, les foules ne le savaient pas forcément, mais et personne ne cherchait à le tuer dans l'immédiat. Mais Jésus n'ignore pas ce qui se joue en coulisses et jusqu'où cela va mener. Et ce qui est frappant dans cet échange, c'est que Jésus met à jour les motivations profondes de ses adversaires. Alors qu'ils s'emportent contre lui, ils discernent lui déjà dans leur attitude une volonté de meurtre qui va effectivement se confirmer quelque temps plus tard, lorsque Jésus sera arrêté et crucifié à Jérusalem. Jésus va au-delà des apparences pour mettre à jour les motivations profondes. Et c'est exactement ce qu'il va faire aussi à la fin du texte que nous avons lu, lorsqu'il aborde cette question de la circoncision. La circoncision, c'est un rituel ordonné par la loi de Moïse qui était effectué sur les petits garçons de 8 jours. Or, il pouvait arriver que ce 8e jour, bien sûr, après la naissance, tombe un jour de sabbat. Une chance sur 7. Eh bien, lorsque cela était le cas, les spécialistes disaient, eh bien, on considère que le principe de la circoncision l'emporte en quelque sorte sur le principe du sabbat. On fait une exception et donc on pratiquait quand même la circoncision le jour du sabbat, jour où normalement on ne devait accomplir aucun travail. Alors, on peut se dire, mais pourquoi est-ce que Jésus tout d'un coup parle de cela? Eh bien, il fait référence à sa précédente visite à Jérusalem où on l'avait accusé de guérir un homme le jour du sabbat. Et même si cet événement n'est pas explicitement, enfin il le sera un peu plus loin dans le texte, redit au début de la conversation ici, c'est bien cette accusation qui reste en filigrane dans ce texte. Et pour bien comprendre ce que dit Jésus à ce propos, il faut se rappeler, prendre conscience que la circoncision, entre autres, symbolisait une purification, être purifié parce qu'on fait partie du peuple de Dieu. On marquait dans la chair le fait que l'enfant symboliquement appartenait au peuple de Dieu, un peuple dont la vocation était d'être un peuple saint. Or, regardons ce que dit Jésus au verset 23. « Si un homme reçoit la circoncision pendant le sabbat, pour que la loi de Moïse ne soit pas annulée, pourquoi vous irritez-vous contre moi qui ai rendu la santé à un homme tout entier pendant le sabbat ?» Le problème des responsables religieux de l'époque de Jésus, c'est qu'ils étaient passionnés par la forme, mais ils oubliaient souvent le fond. Et dans un autre épisode raconté dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, Jésus, avec une certaine ironie, dira ceci, « Il est permis de faire du bien le jour du sabbat. » Le repos sabbatique, c'est un principe institué par Dieu, pas pour écraser l'homme, mais au contraire pour son bien. Si on peut circoncire un enfant le jour du sabbat, a fortiori, on peut guérir un homme, purifier son corps le jour du sabbat. Et on le voit encore et encore dans les évangiles. Jésus ne s'arrête pas à la surface des choses. Il va au cœur des choses. Il va au sens des choses. Et au cœur des intentions réelles des hommes. Et c'est ce qui le rend si dangereux face aux schémas dans lesquels nous avons tendance à enfermer nos vies. Il est frappant de voir que tout au long de l'histoire, les adversaires de Jésus n'ont pas voulu faire face à ces paroles. On a cherché à les esquiver, les éviter, les déformer, les caricaturer. Aujourd'hui encore, on choisit, souvent les gens choisissent quelques paroles de Jésus qu'ils aiment bien, et puis tout le reste on met de côté, ce qui nous gêne plus. Or, on n'échappe jamais à Jésus en lui faisant face. On ne peut échapper à Jésus qu'en l'évitant. Et un exemple de cela, d'ailleurs, c'est que lorsque les gens s'attaquent au christianisme, c'est rare qu'ils s'en prennent à la personne de Jésus. Même les adversaires les plus farouches de la foi. En général, il y a certainement des exceptions, en général, ils s'en prennent plutôt à l'Église, aux chrétiens. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait réellement face à Jésus? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait face réellement à sa personne, à ses paroles? Eh bien, j'en arrive au dernier point qui sera aussi la conclusion. Les disciples authentiques. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 32, on assiste à une scène bien connue, mystérieuse et saisissante. Jacob, le petit-fils d'Abraham, est en route pour retrouver son frère Ésaü. Et pendant la nuit, il est attaqué par un homme avec qui il lutte toute la nuit. Et à la fin de la nuit, cet homme, en tout cas ce qui paraît être un homme, blesse Jacob à la cuisse. Et il s'apprête à partir, aussi mystérieusement qu'il est arrivé. Mais Jacob s'accroche à lui et lui dit « Je ne partirai pas avant que tu m'aies béni. » Et l'homme mystérieux va alors lui donner un nouveau nom, Israël, et le bénir. Et Jacob va alors dire ceci « J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. » Et il part en boitant, mais ayant fait la paix avec Dieu. Il est possible d'éviter Dieu toute sa vie et d'être éternellement séparé de lui. Et c'est le pire destin possible pour tout être humain. ou bien on peut faire face à Jésus et peut-être lutter avec lui d'une certaine manière, quitte à être blessé, mais transformé par cette rencontre. Il est tellement préférable de s'en aller boitant, mais ayant fait la paix avec Dieu, que d'éviter Dieu toute sa vie. Je reviens à notre texte et je lis le verset 17. « Si quelqu'un veut faire sa volonté, la volonté de Dieu, il saura si cet enseignement vient de Dieu ou si c'est moi qui parle de ma propre initiative. » Jésus invite ses interlocuteurs à ce pas de foi. Il les invite à placer leur confiance en lui et à reconnaître dans ses paroles les paroles de Dieu lui-même. Ces paroles dont nous avons désespérément besoin. Des paroles qui souvent nous font mal au premier abord, mais qui sont les paroles de la vie éternelle. Parfois, et les chrétiens y compris, souvent même, nous préférons mettre des écouteurs, éventuellement au sens propre, mais en tout cas au figuré, pour entendre notre petite musique plutôt que sa voix. Parce que sa voix fait encore mal, même à nous qui sommes ses disciples, lorsqu'elle renverse nos présupposés, lorsqu'elle renverse nos amertumes, nos convoitises, notre immortalité, notre superficialité. Elle nous fait mal, mais elle nous fait du bien, et nous en avons besoin. Et ces jours-là, trop souvent, nous préférons un Jésus light, un Jésus qui est plutôt un coach ou un fan, à la limite, que notre Seigneur, à qui nous devons notre allégeance. Mais si vraiment nous croyons que Jésus a les paroles de la vie éternelle, alors il est temps d'y revenir. Et si ce matin vous êtes encore à la recherche de Dieu, ou bien si ça fait un moment que vous n'écoutez plus beaucoup ces paroles, eh bien pourquoi ne pas faire face pour la première fois ou à nouveau, de plein fouet même, aux paroles de Jésus. Par exemple, en lisant l'évangile de Jean dans les semaines qui viennent. Mon espoir et ma prière, c'est que Dieu vous emmènera par cette lecture sur un chemin nouveau à la suite de Jésus. C'est un chemin qui comporte beaucoup de virages inconnus, mais la destination est connue. Au bout du chemin, il y a les retrouvailles, face à face avec notre Créateur. Il s'agit de quitter notre exil pour retrouver la terre promise, pour retrouver la maison du Père. Amen.